point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Le prix Albert Londres, c'est ce que fait aujourd'hui avec nous sur Canal Académie M. Henri Amouroux, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, où il a été élu en 1978 et dont il est le doyen de la section d'histoire et de géographie, dont il est aussi, il est bon aujourd'hui de le rappeler, le seul membre journaliste. Monsieur Amouroux, bonjour.
Bonjour, madame.
C'est donc depuis 1985 que vous présidez l'association et le jury du prix Albert Londres, ce jury qui vient de choisir ses nouveaux candidats pour le prix de cette année, ses nouveaux lauréats, et vous partez demain pour la Chine, et nous vous sommes encore plus reconnaissants de nous avoir consacré du temps. Pourquoi la Chine, monsieur Amouroux ?
Pour une raison très simple, depuis plusieurs années, nous nous efforçons de remettre nos pas dans les pas d'Albert Londres. Alors Albert Londres, vous savez, était un très grand voyageur, un très grand journaliste, à une époque, évidemment, où les voyages ne se faisaient pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Pour aller en Chine, il fallait au moins 3 semaines, et pour en revenir 3 semaines, donc on ne partait pas pour 15 jours. On partait au moins pour 2 mois, naturellement, 3 mois. On partait vraiment pour la moitié de l'année. Entre l'aller, le retour, le séjour, c'était assez, assez passionnant et très instructif. Alors Albert, nous avons donc... suivi les pas d'Albert Londres. Nous sommes allés d'abord en 1999 à Cayenne, parce qu'Albert Londres a écrit un très grand livre qui a eu une influence d'ailleurs sur l'administration. C'est pas mal, c'est bien quand un livre ou des articles ont une influence sur l'administration.
Oui, c'est un grand honneur. Oui.
C'est rare aujourd'hui. Alors il avait écrit un livre sur le bagne, parce que vous savez, il y avait des bagnards. Ça a duré d'ailleurs.
C'était dans les années combien ? Dans les années 20, 25.
Le bagne a duré jusqu'après la guerre de 40, n'est-ce pas ?
Ah oui.
Oui, on n'y envoyait plus de gens, mais il y était toujours. Bon, il restait. Et c'est à la fin, après les années 40, qu'on n'a plus envoyé et libéré plus ou moins les gens qui étaient là-bas, ceux qui étaient là-bas. Le bagne, les gens vivaient dans des conditions très très dures. Avec d'ailleurs des peines, on parle quelquefois de la double peine, mais c'était là des doubles peines encore plus sévères que ce qu'on imagine aujourd'hui. Lorsque quelqu'un était condamné à moins de 7 ans de peine, il devait rester 7 ans de plus sur la Guyane. Bon. Et s'il était condamné à plus de 7 ans, il restait la vie entière.
Oh là là,
alors, vous verrez la vie entière en Guyane, pourquoi pas. Mais c'est qu'il n'y avait pas de travail. Et puis ces gens-là qui étaient des bagnards, généralement ils avaient commis des crimes de droit commun. Bien. Et il n'y avait pas d'employeur non plus pour les employer facilement. Si bien qu'ils vivaient assez misérablement au bagne et après quand ils étaient sortis du bagne également. Et donc Albert Londres y est allé, a décrit les conditions de vie, non pas dans 3 ou 4 articles à l'époque, lorsqu'Albert Londres écrivait, c'était 25 articles. Le sujet, le thème, c'était 25 articles.
Ça veut dire que les journaux acceptaient aussi 25
oui,
articles
mais bien sûr,
sur un même
qui
sujet.
Qui n'était pas très long, mais 25 articles, qui étaient d'ailleurs très remarquablement faits, car Albert Londres avait une grande qualité d'écoute. Il y a dans Claudel un poème qui s'appelle « L'œil écoute ». Qui a pour titre « L'œil écoute ». Et chez Albert Londres, l'œil écoutait. Il voyait, mais il entendait aussi ce que disaient les gens. Il dit, vous prenez 10 bagnards ou 15 ou 20 bagnards, vous dites les bagnards. C'est pas vrai. Il y a 15 aventures humaines, il y a 20 aventures humaines.
Ce sont des personnes.
20 discours différents, 20 propos différents. Et Albert Londres avait ce grand mérite qu'aujourd'hui, je ne retrouve pas dans la presse actuelle, je trouve que ça manque beaucoup, c'est qu'on voit les gens globalement, on voit une masse humaine, beaucoup de journalistes sont très... On fait de longues études, la plupart, appuient leurs articles sur des archives, sur un travail sérieux qui précède l'article. Mais ce qui manque, me semble-t-il, et ce qui était alors chez Albert Londres vraiment d'une façon remarquable, c'est le ton de la voix qui situe le personnage, qui situe sa condition sociale, bagnard ou pas bagnard, il y a des conditions sociales chez les bagnards, bien entendu. Donc il situe sa condition sociale, sa situation, son âge. Bref, Albert Londres alors a fait cette série contre les conditions de vie effroyables des bagnards. Nous sommes donc allés en 1999 en Guyane. Nous avons vu les restes du bagne, qui sont d'ailleurs très impressionnants, alors que...
On y sent encore quelque chose.
Oui, naturellement. Une émotion. Le cimetière des bagnards, lorsque souvent ils étaient mangés par les requins, on les jetait à la mer, ils étaient boulottés par les requins.
Alors quand vous dites nous, c'est le jury, vous êtes combien ?
C'est le jury, ben, c'est ceux qui voulaient du jury. Nous sommes 19 à 20 au jury, parce que le jury, est, depuis que je suis président, depuis 20 ans, donc à peu près 20 ans, le lauréat, les lauréats, puisque nous avons depuis 85, depuis que je suis président, un prix de l'audiovisuel. C'est Henri Turenne qui avait eu l'idée de ce prix de l'audiovisuel.
Donc il y a deux prix, un prix pour la presse écrite et un prix pour l'audiovisuel.
Et donc nous venons, et les lauréats de l'année précédente participent au jury. Ils votent.
Il reçoit donc il y a au moins deux lauréats. Alors...
Non, mais c'est pas ça. Je vous dis, les lauréats de l'année précédente participent au jury. Vous m'avez posé la question, combien
sont
au jury ?
Donc ça dépend.
Nous sommes institutionnellement 18, si vous voulez, et les lauréats de l'année précédente viennent participer au vote. Ils ont exactement les mêmes droits que les membres du jury. Ils votent comme nous, etc., mais ils ne font ça qu'une fois.
Voilà.
Après, ils ne reviendront
pas. Après Cayenne, alors, où vont pas vous ont-ils mené dans les traces d'Albert Londres ?
Après Cayenne, sur le Tour de France, nous avons fait 4 étapes des Alpes, car c'est passionnant, enfin, 4 étapes des Alpes, je vous jure, dans la course, avec les coureurs, enfin, pas à vélo, en voiture naturellement, avec les coureurs dans la course, pilotés d'ailleurs par un ancien... Eux repèrent les mouvements du peloton, ils savent, c'est très dangereux, naturellement, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent ce que va faire le coureur qui est devant, à travers ses mouvements, ils doublent quand il faut, etc., etc. Ils sont très attentifs aux ordres du directeur de course.
C'est un métier. Et puis ça vous amenez dans les Alpes,
oui,
au sommet.
Et nous avons fait, alors il y a une ville étape, c'est Courchevel, nous en avons profité, je reviens sur la Guyane, nous avons créé un lycée Albert Londres. En Guyane, à Courchevel, à la mairie de Courchevel, il y a une salle Albert Londres depuis. Et bon, alors nous sommes arrivés à Courchevel, là, après avoir fait 4 étapes. Les confrères venaient de Paris pour suivre une étape, repartaient à Paris, et puis se sont tous retrouvés à Courchevel. N'est-ce pas ? Parce que dans la voiture, il y avait 3 places. Dans la voiture, il y avait le pilote et puis 3 places. Donc, on a fait 4 étapes. Alors, les confrères venaient, repartaient, revenaient. Et sont revenus à Courchevel. Nous avons fait ça. Pourquoi Albert Londres avait-il suivi le Tour de France ? C'est lui qui a créé l'expression « les forçats de la route ». C'est Albert Londres qui l'a créé. Elle est toujours, d'ailleurs, employée aujourd'hui. Il avait suivi le Tour de France parce qu'à l'époque, il avait une petite amie, il a eu pas mal de petites amies, et il avait une petite amie qui n'était pas du tout d'accord pour qu'il aille en Chine ou un truc comme ça, très loin, parce qu'il était
donc pas de grands reportages très loin.
Mais le Tour de France, c'est 3 semaines, un mois, en rigueur, 3 semaines. Alors il a fait le Tour de France, puis après nous sommes allés à Reims. Pourquoi Reims ? Parce qu'en 1914, les premiers articles signés d'Albert Londres, dans un journal qui s'appelait Le Matin d'ailleurs. Les premiers articles signés ont été au moment du bombardement de la cathédrale. Vous savez, pour nos auditeurs le savent, parce que je sais qu'ils sont passionnés par l'histoire et qu'ils connaissent très bien l'histoire. Bon, les Allemands avancent, la grande attaque allemande, la grande avance à la menace sur Paris, ça les amène au-delà de Reims. Ils prennent Reims dans la foulée de leur avance, puis il y a la victoire de la Marne, et la victoire de la Marne entraîne le recul qui est important, nous espérions plus long, mais les hommes d'armée française sont fatigués, puis nous manquons d'ailleurs de munitions. Bref, enfin, la bataille de la Marne a des résultats heureux, mais le front se fige, et vous avez à ce moment-là la guerre de tranchées. Et les Allemands se retirent à 8 km de Reims, sur une ligne de fortification qui avait été faite par Serré de Rivière après la guerre de 1870, puisque nous avions perdu, n'est-ce pas, nos fortifications de l'Est, bien entendu, puisque le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle étaient annexés, nous perdons nos fortifications de l'Est et il faut en refaire une autre. Donc il y a eu ces fortifications, les Allemands sont installés là et ils ont bombardé Reims pendant toute la guerre, jusqu'en 1918, si bien qu'il restait 8 maisons à Reims lorsque Reims a été libérée à la fin de la guerre et que la cathédrale a été bombardée. Pas systématiquement sans doute, mais enfin, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui les bavures. Mais enfin, il y en a eu beaucoup. Et nous sommes allés à Reims parce qu'Albert Londres, en septembre 14, a écrit les premiers articles signés signé de son nom au moment de bombardement d'Arras. J'insiste sur le mot signé parce qu'en 2004, un journaliste arrive dans un journal, il signe 3 jours après ou 4 jours après son arrivée. Ce qui est, à mon avis, une erreur, une grande erreur, parce que ça donne à ce jeune confrère des illusions sur son talent. Et après, on ne peut plus lui faire d'observation, on ne peut plus lui apprendre son métier du moment qu'il a signé, c'est fichu. La signature devrait se conquérir, la signature devrait être une longue conquête. Moi, je me souviens très bien que j'ai signé, après 3 ou 4 ans, d'articles qui n'étaient pas signés. Et puis, j'ai d'abord mis mes initiales, et lorsque j'ai mis mon nom, c'était à Sud-Ouest, à Bordeaux, je suis rentré très fier, on avait droit à une morasse bronzée. Aujourd'hui, il n'y a plus de morasse bronzée, tout ça, le plomb a disparu dans l'imprimerie. Mais enfin, c'était comme ça à l'époque. À l'époque, il n'est pas quand même Mathusalem, mais il ne faut pas rêver. C'était quand même ça en 48 ou 49. Je suis rentré chez moi très heureux pour montrer ça à ma femme. J'ai payé à boire naturellement à toute l'équipe de metteurs en page. Mais j'étais très content, très
fier. Et je me souviens même qu'il y avait des cordes, des caractères, des grandeurs de cordes selon les signatures. Si vous étiez grand reporter, votre signature était signée plus gros que si vous n'étiez qu'un reporter.
C'était en 12 ou en 14. Oui, bien sûr, naturellement. Alors, donc
Albert Londres avait 30 ans en 1914.
Il a signé pour la première fois ses articles. Alors nous sommes allés à Reims et nous avons été très bien accueillis par l'archevêque, qui est un homme remarquable d'ailleurs, a été très bien accueilli par l'archevêque. Qui, naturellement, l'église et l'État, la cathédrale, mais enfin, quand même, il faut passer par l'archevêque. Bon. Et l'archevêque nous a donné l'autorisation, et il a parlé, et j'ai parlé, et c'est très impressionnant, vous savez, de parler dans la cathédrale de Reims.
Oui,
très impressionnant.
Toute
de
l'histoire,
parler,
le poids de l'histoire,
parler,
évidemment.
De parler, là, comme ça, aux gens qui sont là, il y avait 500 ou 600 personnes qui étaient venues, des Rémois, qui avaient. Le journal de Reims, l'Union, avait été très bien, s'était bien occupé de parler de notre manifestation, donc il y avait un public. Et l'idée, ce que nous avons réalisé, c'était de faire lire les 2 articles qu'Albert Londres avait consacrés, n'est-ce pas, à la cathédrale blessée, à la cathédrale atteinte par les obus. Il racontait cela, n'est-ce pas, comme il était monté sur le front à pied, d'ailleurs, il finissait à pied avec son photographe. Et donc, il a raconté ça, et les 2 articles ont été lus par un acteur, qui donc a donné lecture. Et avant, j'avais parlé, très impressionné, parce qu'on se dit, Jeanne d'Arc a été là, elle parlait là, elle était là, en fait, s'est tenue là, peut-être à 1 mètre près, ou à 2 mètres près, ou à 5 mètres près. Quelle importance, c'était là. Vous n'êtes pas à 50 mètres, vous êtes là, dans le cœur. Et puis l'archevêque a parlé, très bien, d'ailleurs, c'est quelqu'un de remarquable.
Alors Henri Amouroux, c'est vous qui avez toutes ces idées pour le prix Albert Londres, qui
attendez,
mettait tout cela
après,
en scène.
Oui, après nous sommes allés en Russie. Pourquoi la Russie ?
En Russie.
En Russie, à Moscou, parce qu'Albert Londres avait fait un reportage, il était l'un des premiers, après la révolution d'octobre, en 1920, n'est-ce pas ? Il a été en Russie, il avait fait son reportage qui s'appelait « Dans la Russie des Soviets ». C'était un journaliste très bourgeois, tout en étant d'ailleurs libre et quelquefois libertaire. Mais quand même, évidemment, il arrivait de Paris, c'était la grande pagaille en Russie. Il a fait un livre qui s'appelle « Une série d'articles dans la Russie des Soviets ». Et puis, nous sommes allés donc en Russie avec le prix Albert Londres. Et nous allons en Chine. Pourquoi ? Parce qu'Albert Londres, en 1925, se trouvait en Chine. Alors la Chine déchirée par la guerre civile, par les guerres civiles entre généraux ennemis les uns des autres, etc. Et également parce qu'il est mort en revenant de Chine en 1932. Il était allé en Chine, il pensait avoir des révélations extraordinaires. On n'a jamais su, en vérité, ce qui s'était produit, ce qu'il avait découvert et quel était son reportage. Ce reportage n'a jamais paru pour une raison très simple, c'est que Albert Londres rentrait sur un bateau très moderne, un paquebot français très très moderne, qui s'appelait Georges Philippard. C'est un des bateaux les plus modernes de la flotte française et qui a pris feu là en 1932, au mois de mai, je crois, en 1932, et qui est Albert Londres n'a pas pu s'échapper. Il y a eu 80 ou 90 personnes qui sont mortes, et il était de cela.
Un drame terrible, oui.
Oui, et d'ailleurs, dans la même année, ou dans les 2 ans, un an avant, un an après, il y a eu non seulement deux paquebots français, je crois, qui ont brûlé, mais aussi un paquebot anglais, un paquebot allemand. Enfin, il y a eu des incendies de paquebots qui étaient dus.
Oui, la sécurité n'était peut-être pas la même.
Oui, une sécurité mal organisée, c'est bien évident. Là, il y a eu une faute sans doute de commandement dans l'histoire du Georges Philippard. On n'a pas voulu réveiller les passagers dans la nuit. C'était une grande erreur.
On aurait pu les sauver à ce moment-là.
Oui, on a attendu que d'être sûr qu'on ne maîtriserait pas le feu, etc. Bon, il fallait tout de suite, mais on a cru que...
Et donc, Londe a disparu avec son reportage de retour
de Chine. Il a disparu corps et bien, il est rentré de Chine, ce n'était pas son premier voyage. Il était déjà là en 25, puis là, il est mort en 32. Et sa fille, Floris, a été merveilleuse, merveilleuse, Floris Albert Londe. Elle adorait son père, elle était veuve, elle n'avait pas d'enfant. Elle a tout donné au prix ensuite et elle a fait que le prix dure toujours. Et puis il peut durer, ça dépendra de ceux qui nous succéderont. Parce que c'est une foi, hein, il faut y croire. Moi, c'est pas l'un des prix. D'abord, c'est le prix le plus ancien de journalisme et je crois que c'est l'un des prix pour lequel il y a la plus grande compétition. Vous n'avez qu'à regarder les quatrièmes de couverture, c'est des journalistes qui écrivent des livres. Hein. Et quand ils ont eu le prix Albert Londe, ils le mettent dans la quatrième de couverture.
Suite,
ils
le mettent dans la quatrième. J'ai dit l'un des prix parce qu'il y a aussi prix Sulitzer qui est un prix de
journalisme. Ah, mais c'est américain.
Qui est américain, France, c'est évidemment le plus grand prix, mais je parlais dans le monde.
Le plus grand, c'est un très grand prix. Et je le vois quelque chose qui est très indicatif. Lorsque l'un de nous meurt, n'est-ce pas ? Bon, il faut le remplacer au jury. Eh bien, le remplaçant doit être pris parmi ceux qui ont eu le prix. Et il y a souvent 7 candidats. Eh bien, vous savez, c'est beaucoup, 7 candidats parmi ceux qui ont eu le prix, qui sont candidats pour faire partie du jury. Alors, bon, c'est un prix important.
Très prestigieux.
Oui, bien sûr, ceux qui ont eu le prix. Et nous y croyons beaucoup. Moi, j'y crois beaucoup, personnellement.
Donc, depuis 1933, qui étaient vos prédécesseurs à la tête de ce prix ?
D'abord, il y a eu Édouard Alcé, qui était un très grand journaliste, qui écrivait dans un journal que j'ai lu quand j'avais 15 ans, ou 16 ans, ou 14 ans, je ne me souviens plus, parce que mes parents qui habitaient Périgueux, donc j'habitais Périgueux, lisaient un journal qui s'appelait Le Journal. Alors bon, mes parents lisaient Le Journal, donc j'ai lu Édouard Alcé qui écrivait dans Le Journal. Puis, c'était un très grand reporter, un grand ami d'Albert Londe. Il y avait des gens très remarquables, comme Henri Béraud, qui était journaliste, qui était un très grand journaliste. Bon, alors, Édouard Alcé. Puis ensuite, Georges Houdard, que j'ai un peu connu. Georges Houdard était surtout un journaliste d'hebdomadaire, surtout. Mais c'était un très, très bon journaliste. Puis alors après, nous avons eu Kessel, alors pas besoin d'expliquer aux auditeurs qui est Kessel, qui a été président du jury pendant je ne sais pas combien d'années. Nous n'avons pas tellement de présidents. Je suis le cinquième, le prix est 1933, il a été interrompu pendant les années de guerre, c'est le 66e prix, et nous avons eu que 5 présidents, il y a eu Kessel. Remarquable journaliste, remarquable romancier, remarquable écrivain, et homme assez extraordinaire, Kessel. Et puis ensuite, un homme que l'on a connu, il s'agit de James Coquet, que l'on a connu à travers la remarquable, étincelante chronique culinaire qui venait dans le Figaro Magazine.
Dans le Figaro, oui, qui était de l'histoire de la cuisine. Figaro
Magazine, qui était
d'une
écriture, pas culinaire, gastronomique, d'une écriture extraordinaire. Enfin, bref. Mais c'était parce qu'il
avait été un grand reporter.
Oui, c'était parce qu'il avait un certain âge. Mais avant la guerre, c'était un grand reporter. Et tout de suite après la guerre, un grand reporter de grande qualité. Et puis, j'ai succédé à Coquet. Il y a donc 20 ans. Bientôt.
Alors Henri Amouroux, permettez-moi de rappeler que vous-même, vous avez effectué de nombreux grands reportages pour le quotidien Sud-Ouest, d'abord entre 1949 et 1968, quotidien Sud-Ouest dont
et
vous étiez le directeur, et beaucoup plus tard, en Yougoslavie, en Israël, au Vietnam, au Canada, en URSS. Des reportages qui ont donné lieu chaque fois à plusieurs livres, dont je cite les titres parce qu'on connaît maintenant beaucoup vos livres d'histoire et il ne faut pas oublier vos livres de reportages. Croix sur l'Indochine, Le Monde de long en large, J'ai vu vivre Israël et deux romans à style reportage aussi, Une fille de Tel Aviv et Le ghetto de la victoire.
Oui.
Donc Sud-Ouest, pour vous, ça reste votre grand journal que vous avez dirigé de quelle année à quelle année?
Non, mais d'abord Sud-Ouest, je n'ai d'abord pas dirigé.
Oui, vous n'avez pas commencé par le diriger, vous avez
commencé
par y être.
Non, mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont
ça
dirigé.
Ça dépend à quel âge.
Il y a des gens qui pensent qu'ils ont dirigé tout de suite. Non, j'ai commencé comme tout le monde, c'est-à-dire, bon, en commençant... Oh, 22 ans, 23 ans.
Vous vous occupiez des livres, je crois, non?
Oui, oui, mais parce que, je vais vous expliquer. Là, qu'est-ce que c'est que la libération? C'est une révolution. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Le principe est très simple. Ceux qui sont dessus deviennent dessous, et ceux qui sont dessous passent dessus. Et à partir d'un certain moment, dans une révolution, on peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on est dessus, au pouvoir. Bon. Alors, bon, il n'y avait pas beaucoup de place dans les journaux. Il y avait une feuille recto-verso, puis après deux, puis après quatre.
Mais il n'y avait pas beaucoup de papier, pour bien dire.
Mais non, mais il n'y a pas beaucoup de pages, parce qu'il n'y a pas de papier. Et alors, on pouvait faire ce qu'on voulait si on voulait travailler. Bon, moi j'aime le travail. C'est vraiment une chose que j'aime beaucoup, le travail. C'est ma passion, parce que je fais le travail que j'aime aussi. J'aime le travail, mais je fais le travail que j'aime. Donc je n'ai aucune vertu particulière dans ce domaine. Alors, tout me passionnait. Je n'aimais pas du tout les vacances. Je continue à ne pas les aimer beaucoup. Et du moment qu'on voulait faire les choses... Je me suis trouvé alors qu'avant, il fallait attendre d'avoir une barbe et puis d'avoir, je ne sais pas moi, 50 ans, 52 ans pour faire la critique littéraire. Je me suis trouvé à 25 ans, 26 ans à charger la rubrique littéraire parce que, bon, la place. Parce qu'on partait du néant, on crée là, comme ça, on crée un nouveau journal. Il n'y a pas de papier, puis quand il y a du papier, ben, il y a des places à prendre, il faut les prendre, et puis voilà. Là, je n'avais pas d'importance à l'époque. Et donc, voilà, j'ai fait la critique littéraire pendant des années, pendant 15-16 ans, je ne sais plus. Tous les mardis, le mardi était mon jour de repos, parce que je travaillais le samedi et le dimanche, le mardi était mon jour de repos, je le consacrais à faire ma critique, à lire. Naturellement, en sachant qu'il faut prendre les trains, un auteur, un écrivain, c'est comme un train qui passe. Vous êtes là, vous montez dans un wagon, mais avant il y a la locomotive et puis 5 ou 6 wagons. Il faut quand même que vous connaissiez la locomotive, 5 ou 6 wagons. Vous ne m'arrivez pas en parlant du livre sans avoir lu les... Enfin, oui, au moins, je me souviens avoir passé... Bon, son nom ne va plus dire grand-chose, peut-être. Avoir passé un mois entier avant d'écrire un article sur Charles Dubos. Est-ce que ça dira encore grand-chose, Charles Dubos? Bon, je mettais un mois. Parce que, naturellement... On peut être ridicule, mais il vaut mieux éviter d'être ridicule pour soi. Alors, bon, mais c'était passionnant. J'ai fait la critique littéraire. Un jour, d'ailleurs, Georges Duhamel, qui a écrit un grand livre qui s'appelle « Vie des martyrs », puis un grand livre, Duhamel. J'avais écrit un article pas gentil du tout. Et Georges Duhamel m'a écrit en m'écrivant « Vous verrez, monsieur, quand vous aurez mon âge. » Il avait raison, d'ailleurs. Il avait raison. Alors j'ai fait les critiques, etc., mais en même temps, j'étais dans la vie du journal, puis après, bon, je suis monté dans la hiérarchie du journal, et puis je suis devenu rédacteur en chef adjoint, enfin, bon, les différentes étapes, secrétaire général, rédacteur adjoint, la rédaction, secrétaire général, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef, et je n'étais pas rédacteur en chef depuis très longtemps, un an et demi peut-être, puis j'avais créé un journal du dimanche, le premier, ou l'un des premiers journaux du dimanche français, Sud-Ouest Dimanche. Puis j'avais créé un journal politique, mais là j'avais 25 ans, et qui était un journal du soir. Il y avait 7 journaux à Paris, à Bordeaux. J'avais une bagarre quotidienne, il y avait 2 journaux communistes, un du matin et un du soir. Et moi j'avais créé un journal MRP, et c'était des tombereaux d'injures quotidiennement. Bon, c'était passionnant, c'était rigolo, c'était une période assez bon. Dur, très dur, mais amusante, ça valait la peine. Alors, bon, il n'y avait pas comme aujourd'hui, on ne peut rien écrire sans être... On s'engueulait, mais il répliquait comment on faisait l'ancien siècle.
Oui, mais on répliquait par la presse, par voie de presse, on ne passait pas par le tribunal.
Non, bien sûr que non.
Sauf exception, bien sûr.
C'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Alors,
c'est comme ça que vous êtes un jour devenu directeur?
Je suis, un jour, en 67... Oui, 67. En hiver 67, Jacques Lemoine, qui était propriétaire, qui avait été l'un des créateurs du journal, l'un des fondateurs à la Libération. J'avais été de l'équipe fondatrice. Enfin, il avait 21 ans, 23 ans de plus que moi. Nous avions un peu de rapport père-fils. Je voulais partir, je ne voulais plus rester à Bordeaux. Je voulais refaire du grand reportage et j'étais en train d'acheter une maison, un moulin d'ailleurs, Clairefontaine. Très beau moulin, un connecteur de terrain, très très beau, ravissant moulin. Et puis je lui dis, je voudrais vous voir. Quand on dit ça à quelqu'un, je voudrais vous voir, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz.
Oui, oui.
Alors nous dînons, sa femme et moi, il m'invite chez lui à dîner avec sa femme et ma femme, n'est-ce pas ? Et donc, il me dit, Henri, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, je lui dis, voilà, je voudrais démissionner, je suis rédacteur en chef, j'en ai marre, je veux revenir à Paris, je veux refaire du grand reportage. Ce qui était une grande erreur psychologique de ma part. Je raisonnais comme un tambour, car il est très difficile d'être dirigé par ce qu'on a dirigé. C'est très difficile. Bon, enfin, bon, ils étaient gentils, ceux que je veux diriger. Bon, ils dirigeaient gentiment, mais enfin, bref. Et le moine me dit, c'est ennuyeux, Henri, parce que moi, je voulais vous demander de devenir directeur général adjoint. Et il se sentait pas très bien, pas très bien. Alors je sors, je lui dis, écoutez, je donnerai ma réponse dans 8 jours. Je dis à ma femme,
choix.
Je peux pas faire ça, le moine, parce qu'on vit ensemble. Je connaissais depuis longtemps, je l'aimais bien, il y avait d'abord. Et alors je dis oui, je suis nommé directeur par le conseil d'administration de janvier 68, directeur général adjoint. Je vais finir un livre en Israël. C'était d'ailleurs Le ghetto de la victoire, dont j'ai cité le titre tout à l'heure. Ce n'est pas un livre qui restera dans la littérature française. Mais avec ce titre, Le ghetto de la victoire, j'étais assez dans les clous. Hein. C'était assez dans ce qui se passe. C'est un peu. J'avais vu assez juste. Hein. Le ghetto de la victoire, ça veut dire que vous avez gagné et vous êtes prisonnier de votre. Vous, quand on me disait nous sommes de bons occupants, je disais non, ce n'est pas à vous de dire que vous êtes de bons occupants, c'est aux occupés. Bon, bref, j'ai écrit ce roman. Et j'étais là-bas en Israël pour finir. J'étais dans un hôtel qui s'appelait, c'est à Tel Aviv d'ailleurs, qui s'appelait l'hôtel Atlantis parce qu'il était situé sur la Méditerranée, donc il s'appelait l'hôtel Atlantis, bien entendu. Il était tenu par des Israéliens d'origine autrichienne, des Juifs d'origine autrichienne, et là, il était 9h du soir, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas tous ces trucs formidables, merveilleux et à la noix, et qu'on a aujourd'hui, qui permettent de connaître les choses à l'instant où elles se passent. L'AFP, l'agence française de presse de l'AFP, me demande de venir, disant, il y a un message pour vous, très important. J'ai 4 enfants, hein. Je croyais qu'il était arrivé un accident. Oui, il était arrivé un accident. Jacques Lemoine était mort subitement. Décédé, oui. Rue Cortambert, il avait un pied-à-terre rue Cortambert à Paris. Et il était mort subitement. Et évidemment, je reste pas. Il y avait 3 jours, 2 jours, j'étais à Tel Aviv. Je prends un avion de nuit qui venait de Tokyo. Et je rentre à Paris tout de suite. Et je suis ipso facto. Après, par un l'autre conseil d'administration... Je suis nommé directeur général, plus adjoint, mais directeur général du groupe Sud-Ouest, qui est le 3e groupe de presse français. Et j'ai c'est en 68, j'ai la chance d'avoir 68. Parce que, pourquoi la chance d'avoir 68 ? Parce que pour une raison très simple. C'est pas, quand vous n'avez pas, quand voit-on que les généraux sont de bons généraux ? Quand il y a la guerre, et quand il n'y a pas la guerre. Ce sont les flatteurs dont
c'est
vous avez tendance.
C'est pareil pour les journalistes.
Je ne dirais pas ça, mais enfin, ce sont pour les chefs de service. Ouais. Ce sont les flatteurs dont on dit sont les bons généraux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors là, j'ai eu la chance d'avoir mai 68, avec tous les problèmes que ça a posé, et j'ai bien vu, parmi mon équipe, ceux qui tenaient le coup et ceux qui ne le tenaient pas. Alors voilà, puis après, en 74, on m'a proposé Paris. J'ai dit oui, parce que...
François,
où je ne suis resté... Dieu merci, car je n'étais pas politiquement correct. Dieu merci que très peu de temps, 1 an et demi, ça a été une grande chance de ma vie, parce que les échecs sont parfois une chance, assez souvent une chance, si on sait les utiliser.
Car ils permettent de rebondir.
Oui.
Ce qui vous est arrivé.
Oui, mais il faut... Les échecs, c'est une bonne chose.
Avec Henri Amouroux, nous évoquons donc la presse, le reportage, le grand reportage et le prix Albert Londres. Nous allons vous donner rendez-vous pour une prochaine émission, car nous allons continuer à évoquer ce prix prestigieux de journalisme, le prix Albert Londres. À bientôt. Thank you.
Vous écoutez Canal Académie.